Alors, le passage donc que je voulais commenter pour vous ce matin, je vais le lire intégralement parce que c'est un passage qui est relativement peu connu et qui se trouve dans la Genèse au chapitre 20. C'est le chapitre 20 de la Genèse. À l'occasion de ce chapitre, on voit la suite des voyages d'Abraham. Alors, si vous voulez bien prendre dans vos Bibles, à partir du verset 1, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Et il s'établit entre Kadesh et Chour, et fit un séjour à Guérar. Pour vous fixer les idées à la fois géographiques et temporelles, là où nous sommes actuellement, c'est que Sodome et Gomorre ont disparu, et donc Abraham décide de quitter ces contrées. Il habitait juste à côté d'Hébron, aux chaînes de Mamré, et il décide de s'en aller de là et d'aller dans le sud, plus ou moins en direction de l'Égypte, mais pas complètement en Égypte. Il va dans les régions des puits de Kadesh et Chour, qui sont assez proches de l'Égypte. Et si vous regardez une carte, il est tout à fait naturel que si vous regardez une carte, vous compreniez qu'en partant d'Hébron et qu'en allant dans cette région de Chour, eh bien, on passe par Guérar. On passe par cette région de Guérar, qui est un royaume, un petit royaume, qui est dirigé, dont le roi est Abimélec, et cet Abimélec est le roi de Guérar, et c'est un Philistin. Abraham disait de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit, en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Tu prieras pour toi et tu vivras. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on l'on tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et donna à Abraham, et il lui renda sa femme Sarah. Abimélec dit, « Voici mon pays devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec et sa femme, et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Là, vous voyez, on est en face d'une situation tout à fait particulière, qui s'est déjà produite dans le chapitre 12 de la Genèse, je l'évoquerai tout à l'heure, mais quand même très particulière. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se situe, en fait, dans une période très précise de la vie d'Abraham, à peu près dans une période d'une année, entre le moment où Abraham reçoit son nouveau nom, d'Abraham il devient Abraham, en même temps il reçoit la promesse explicite et répétée, qu'il aurait un fils de Sarah, c'est très important de bien comprendre, qu'il aurait un fils de Sarah. Donc, entre ces annonces et la naissance, et le moment où Dieu visite, un an plus tard, Sarah elle-même, et où il y a cet enfantement d'Isaac. On est dans cette période-là d'un an et demi, disons, on peut pas être, n'est-ce pas, quelques mois après, on est dans cette période. Donc, c'est une période étroite. Il a entre 99 et 100 ans, Abraham. D'accord? Et on a là donc ce géant de la foi qui a fait des choses extraordinaires avant, que je vous rappelle. Cet homme exceptionnel, qui a 75 ans, parce que Dieu lui a demandé, est parti dur, et qu'il allait se balader dans ce pays de Canaan qu'il ne connaissait pas. Qui un peu plus tard, pour sauver son neveu Lot, part avec 300 hommes se battre contre 4 rois qui venaient d'Élam, c'est-à-dire d'une région qui est à peu près en Irak aujourd'hui. Avec 300, il les bat, il monte jusqu'à Dan, il sauve Lot, il sauve les biens de Lot, il revient. Cet homme qui au retour reçoit de Melchisédek la bénédiction d'en haut. Melchisédek, un type de Christ. Je ne pense pas que ce soit Christ, certaines personnes disent c'est Christ, mais c'est certainement une représentation, une image de Christ. Cet homme qui a cru lorsque Dieu lui a montré toutes les étoiles du ciel, il lui a dit, ainsi sera ta descendance au chapitre 15. Et il a écrit ce verset, le verset central presque de tout l'Ancien Testament. Il crut à Dieu et Dieu le lui imputa à justice. C'est là où Dieu montre d'une façon magnifique que le salut vient par la foi et il impute à justice la foi d'Abraham. C'est-à-dire qu'à travers cette foi, il le regarde juste, comme un juste. Non pas, il ne voit pas à ses péchés, il voit à sa foi. Genèse 15, 6, je crois, c'est un verset extraordinaire, sur lequel d'ailleurs l'apôtre Paul s'est appuyé dans Romains 4. Cet homme, donc, qui croit en voyant, alors qu'il n'a pas d'enfant, et une femme stérile, et qu'il est vieux. Cet homme qui, peu avant, a plaidé devant Dieu pour le salut, pour que Lot soit sauvé de la destruction de Sodome, et qui a obtenu le salut de Lot. Cet homme-là, c'est ce géant de la foi, comme on dit. C'est le père des croyants, c'est celui qui, dans la foi, fait des choses extraordinaires. Cet homme-là tente maintenant de protéger sa vie. Je vous rappelle que peu avant, lorsque Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham, le premier verset, je crois, du chapitre 17, il lui dit seulement, sois intègre. Il lui demande d'être intègre. Et le mot en hébreu qui est ici, qui se trouve à cet endroit-là, c'est le même mot qui caractérise l'agneau pascal, l'agneau sans tache. Donc Dieu demande à Abraham d'être sans tache, d'être intègre. Et voilà que maintenant, devant cette situation, où partant, il passe chez Abimelech, il se dit, je suis marié. Et c'est amusant d'ailleurs parce que le texte de 1 Corinthiens 7 qu'on a lu aujourd'hui, et non pas une explication du texte, ceci n'est pas une explication du texte, mais donne quelques idées pour le comprendre. Parce que dans 1 Corinthiens 7 de tout à l'heure, on a dit, l'apôtre Paul dit, à cause des temps difficiles qui vont venir. Et là, pour Abraham, on est dans un temps difficile. Et le fait d'être marié n'est pas facile pour lui à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que l'apôtre Paul avait dit, ou sur lequel on peut commenter longuement, mais disons, un des éléments importants, c'est de dire, quand on est dans des temps difficiles, le fait d'être marié complique, bien entendu, la vie d'un homme ou d'une femme. Et là, on voit un exemple. Ça lui complique la vie d'être marié. Et donc, il se dit, bien, mieux vaut être... Mieux vaut, quelles sont ma sœur? En fait, le raisonnement va comme ceci. Si un roi ou un prince, pense Abraham, ou Adra, chez lequel Abraham va séjourner, et que ce roi veuille s'emparer de sa femme, ou bien parce qu'elle est belle, ça c'était le cas en Égypte, ou bien parce qu'elle est peut-être toujours belle, mais je veux faire une alliance, parce que vous savez, vous pouvez faire une alliance avec les gens. C'est-à-dire que vous preniez la sœur d'un prince, et l'histoire de France est bourrée de ça, et vous la mariez à un roi ou un prince, et vous faites l'alliance des maisons. Et ça peut être très bien la raison aussi d'Abimelech à Guérard, ou bien d'avoir simplement ses femmes, ou bien simplement de faire alliance. C'est-à-dire, il voulait faire alliance avec Abraham. On le voit, il veut faire alliance. À la fin, on voit qu'il veut faire alliance. Eh bien, que ça soit l'un ou l'autre, il dit, dans les deux cas, si elle est ma femme, tout se bloque, tout s'arrête, et du coup, ma vie est en danger. Il est donc préférable qu'elle ne soit pas ma femme. Ma vie est en danger. Je n'ai plus aucune sécurité à cause de ma femme. Ma femme me rend insécure, si vous voulez. Et il dit au chapitre 12, il dit, voici, je sais que tu es une femme belle de figure, quand les Égyptiens, parce que au chapitre 12, c'était avec l'Égypte, te verront et diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. Et te laisseront la vie. Et dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Grâce à toi. Que je sois bien traité et que mon âme vive. Voilà. Donc, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Alors, vous imaginez que c'est une situation, bien entendu, qu'on dit vraiment un petit peu. On dit, Abraham exagère, enfin, d'utiliser sa femme de cette façon-là. Et il exagère d'autant plus, et il la met en péril d'autant plus que, on peut se dire, nous, telles que nous voyons les choses, nous qui avons, dans la relation entre Christ et l'Église, l'image du couple, comment est-ce qu'on pourrait imaginer que Christ dise à son Église, va te donner à quelqu'un d'autre, éventuellement pour que moi-même, je sauve ma vie. En réalité, dans la relation de Christ à l'Église, celui qui s'est donné et qui s'est donné pour l'autre, c'est Christ, pour la vie de son Église. Et on voit que la situation, du point de vue spirituel, est profondément ancrée dans la parole de Dieu. Abraham nous met dans une situation complètement inversée par rapport à la volonté de Dieu sur le couple. Vous voyez ? Il met sa femme en péril pour sa vie. Christ a mis sa vie en péril pour l'Église. Et donc vous voyez que les conséquences de ça, au moins à ce niveau-là, c'est quoi ? C'est que vous savez, la première chose qui se passe, c'est que l'homme intègre, auquel Dieu a demandé d'être intègre, commence par mentir. Il ment. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un demi-mensonge, puisque il était que son demi-frère, ou elle était que sa demi-sœur. C'est peut-être possiblement un demi-mensonge, mais c'est sûrement une totale intention de mentir, car c'est l'intention qui compte. L'intention est mensongère. Le deuxième point, ce faisant, il met la pureté de sa femme en péril. Vous voyez, il la met sous le risque de la souillure, sa femme, ainsi que évidemment le lit conjugal, pour prix de son confort. Pour prix de son confort, à lui. Et il met la promesse, et alors là, c'est peut-être encore la chose la plus importante, la promesse de cette descendance, il la met en danger. Il met en danger la promesse de la descendance. Il va avoir une descendance par Sarah dans très peu de temps, dans 6 mois, 9 mois, 10 mois, je ne sais. D'aller risquer qu'elle aille chez Abimelech et qu'il arrive avec Abimelech des choses qui ne se disent pas, c'est mettre la descendance en danger. Et en plus, ces gens vont dire, mais finalement, ce fils Isaac, c'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'Abimelech.
Vous voyez le danger énorme qu'on prend là. Il a pris un danger, le risque énorme, il a pris un risque considérable. Alors vous allez me dire, mais alors comment est-ce qu'il aurait dû penser? Il aurait dû sûrement penser. Alors, et là je vous interroge, est-ce que nous le faisons? D'ailleurs je vais y revenir. Est-ce que nous vivons selon la logique de la foi? Il y a une chose qui s'appelle la logique de la foi. Si Dieu lui dit explicitement, Abraham, tu auras un fils par Sarah, il pouvait avoir la certitude absolue qu'il pouvait se balader chez Abimelech sans qu'il arrive rien à Sarah. Que Dieu se serait débrouillé d'une façon, d'une autre, je ne sais, mais il ne serait rien arrivé à Sarah et la descendance serait venue. Il avait cette certitude. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que bien qu'il ait eu cette certitude, il est un être humain et il s'est appuyé sur son inquiétude. Vous allez me dire, est-ce que c'est le cas unique? Est-ce que c'est un cas unique dans les Écritures? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un cas unique parmi les chrétiens? Alors là, certainement pas. Mais est-ce que c'est un cas unique? Il y a un cas qui m'a toujours beaucoup intéressé par rapport à cette chose-là, de la logique de la foi. Je vais vous rappeler le cas d'Élie. Rappelez-vous d'Élie. Élie, sur le mont Carmel, a démontré aux Israélites que c'était par lui que parlait Dieu. Il fut un sacrifice extraordinaire sur un animal qui était, je ne sais plus lequel, recouvert d'eau. Il fait venir le tonnerre de Dieu et le tonnerre de Dieu consume complètement le sacrifice. Tous les Israélites ont pu le voir. Après, il a tranché la gorge de 800 faux prophètes. Ce qui fait un sacré travail. Donc manifestement, Dieu était avec lui, Dieu lui donnait la force, Dieu lui donnait le succès, Dieu parlait par lui. D'accord? Dieu parlait par lui. Il avait toute la force de Dieu en lui. D'accord? Mais quand Jézabel lui a dit, je vais envoyer mes militaires contre toi et j'aurai ta peau, qu'est-ce qui se passe? Il est complètement confondu. Il ne peut plus. Il part, il court, il part dans le désert, il descend, il va à la montagne de Dieu à Horeb, il n'en peut plus. Il demande à Dieu la mort, etc., etc., etc. Il ne peut plus. Et vous voyez, cet homme qui a fait des choses aussi extraordinaires, tout d'un coup, il est confronté à son être, d'une certaine façon à sa chair, qui est dans la peur, qui est dans l'inquiétude. Exactement comme Abraham. Abraham qui a fait ces choses tellement extraordinaires, qui a fait ces actes de foi tellement extraordinaires, là, tout d'un coup, il se trouve confronté à sa chair, il ne peut pas. Il n'arrive pas à passer ce passage-là. Vous voyez? Et vous savez, c'est ça. Le diable, il le sait très bien. Il le sait très bien, le diable, parce que lorsqu'il y a eu, dans Job, la deuxième visitation du diable, devant Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Satan a dit à l'Éternel? Pour, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais tant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Pour nous, l'application que je fais ici, c'est tant ta main touche à ses os et à sa chair, et il va être complètement perturbé. Il va pas pouvoir tenir. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé là. Vous voyez, on sait que là, quand on touche à nous-mêmes, à notre vie, l'inquiétude devient telle qu'on est capable, n'est-ce pas, de complètement tout oublier, comme Abraham. Encore une fois, Abraham, il avait d'une certaine façon un viatique extraordinaire en ayant cette promesse avec lui. Il savait que de toute façon, jamais elle ne mourrait, puisqu'il fallait réaliser la promesse. Ce qui me permet de vous dire, voyez, que nous devons nous-mêmes être attentifs à ces exemples. En ce qui concerne, bien sûr, nous sommes à un niveau bien plus bas que ces hommes-là. Nous ne sommes pas Abraham. Nous ne sommes pas Élie, bien qu'il soit dit dans Jacques qu'Élie était un homme tel que nous, n'est-ce pas, bien sûr, mais ce sont des hommes exceptionnels. Ce sont des hommes. Abraham était l'ami de Dieu, vous savez. Jacques dit c'était l'ami de Dieu. Abraham est un homme qui parlait avec Dieu. Dieu venait le rencontrer, il parlait avec lui. C'est extraordinaire, en soi. Il parlait avec lui. Mais à un niveau inférieur à cela, je vous interroge, je nous interroge. Est-ce que dans notre vie, il n'y a pas aussi un peu du bricolage, quelquefois, ou de la magouille? Parce que là, chez Abraham, c'est du bricolage. Il bricole. Il dit, elle est un peu ma sœur, en fait. Donc elle est ma sœur. Mais il y a dans nos vies, des fois, du bricolage. Je sais que nous sommes capables de brillantes déclarations de foi en notre salut. Et en même temps de compromission pour nous protéger dans le quotidien. De compromission qui font que nous n'apparaissons pas devant le monde, ou même devant notre famille, et en tout cas devant Dieu, comme intègre. Nous le faisons, ça. Néanmoins, si on vous demande, est-ce que vous croyez que vous êtes sauvé, est-ce que vous croyez... Oui. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous avez la foi en votre salut? Oui. Est-ce que Jésus est à côté de vous, comme il l'a promis en Matthieu 28? Oui. Pas de problème, je le sais. Mais maintenant, demain, ou aujourd'hui, ou hier, vous avez agi comme si Jésus n'était pas à côté de vous. Si je vous le dis, excusez-moi, peut-être que vous ne l'avez pas fait. Mais moi, je pense que j'ai fait. Mais je ne veux pas vous entraîner avec moi. Mais je pense qu'on est tenté. Vous savez, c'est notre humanité qui est tentée. Et il faut vraiment qu'on soit prudent par rapport à ça. Et qu'on soit de plus en plus intègre. L'intégrité, c'est une marque de Dieu en nous. Dieu, il est absolument juste. L'intégrité est une marque de Dieu en nous. D'accord? Alors maintenant, je voudrais vous entraîner dans une petite digression par rapport à ce que je viens d'expliquer. Je viens de vous dire que Abraham, sachant que Sarah allait devenir enceinte, aurait dû s'appuyer sur la logique de la foi et simplement ne rien dire. Il dit, c'est ma femme. Mais on ne peut pas exclure qu'Abraham, dans le cadre de la logique de la foi, en se disant, il y aura une descendance, et quand même menti en se disant que de toute façon, Dieu allait protéger, puisqu'il savait qu'il aurait une descendance. On ne peut pas l'exclure, ça. C'est impossible à exclure. Parce que rien dans le texte ne nous permet de dire qu'il ne l'a pas fait. Et ça s'appelle quoi? Faire quelque chose qui force Dieu à donner une protection quoi qu'il arrive, ça s'appelle forcer Dieu. Tenter Dieu. Le Seigneur Jésus a répondu à Satan. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il n'est pas impossible de penser que là, Abraham a été dans une situation où peut-être il a tenté. Mais je ne sais pas. Donc je dis, c'est une possibilité. Mais je dis pour nous, attention, même si nous savons où Dieu nous amène, gardons-nous de tenter Dieu, c'est-à-dire de nous mettre dans des situations dont nous sommes sûrs de sortir à cause du fait que nous savons où Dieu nous mène. Ça, c'est tenter Dieu, et ça, c'est une horreur. Parce que c'est utiliser la foi à des fins personnelles. Et Dieu déteste ça. Maintenant, je reviens sur la question du mensonge. Vous voyez que le mensonge, on l'a vu dans Genèse, chapitre 18, lorsqu'il y a eu cette annonce faite à Sarah, tu auras un fils, elle a ri. Elle a ri. Alors l'ange a dit, tu as ri. Et Sarah a dit non. Son mensonge était là pour couvrir son manque de foi. D'accord? Et ici, vous avez mensonge d'Abraham, cette fois. C'est pour imposer son manque de foi dans un sens. Il impose son manque de foi. En mentant, il impose le fait qu'il ne croit pas que Dieu va le protéger. Et il ment. Vous voyez, la mensonge et la foi sont liés dans ces deux passages. Mensonge et foi. L'absence de foi les a poussés d'une façon ou d'une autre au mensonge. Mais ce qui est merveilleux, parmi tout ce projet-là qui se découvre, que l'on voit se réaliser, ce qui est merveilleux, c'est que on voit que Dieu protège son dessein. N'oubliez pas que là, on est dans toute cette histoire d'Abraham, n'est-ce pas, on est en train de faire quelque chose, c'est que Dieu est en train de nous rappeler l'histoire d'Isaac, d'Israël qui va à Christ. Pour nous, cette histoire, elle est centrale, elle est essentielle. Pour nous, c'est le chemin du salut. Le Seigneur nous décrit le chemin du salut qui passe par Isaac, etc., et qui nous amène à Christ. C'est de ça dont il est question. Et le Seigneur, au moment où il nous décrit le chemin du salut, qui nous concerne tellement, il nous montre ce qu'ont été les hommes qui ont été sur ce chemin, et donc on a d'abord les patriarches, puis ensuite la suite de l'histoire d'Israël, mais là vous voyez, ça nous intéresse au plus grand chef. Et alors, donc ce qui compte pour nous, c'est de voir la protection du dessein de Dieu. Dieu veut protéger absolument cette promesse. C'est-à-dire, la promesse, c'est la naissance d'Isaac, de Abraham et de Sarah. Et vous voyez comment Dieu le fait. D'abord, quand Sarah s'est trouvée dans la cour d'Abimélec, Dieu a dit, je n'ai pas permis que tu la touches. Donc, c'est un premier élément de protection qu'on voit. Je n'ai pas permis que tu la touches. Et puis ensuite, il y a un deuxième élément de protection qui est très intéressant, c'est que Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah et de sa femme. De Sarah, femme d'Abraham, pardon. Ce qui prouve pour tout le peuple qu'Abimélec ne pourra jamais être dit père d'Isaac. Lui seul n'a pas été touché par cette difficulté, mais toute la famille. Toute la famille le sait maintenant. Et donc il savait que tout le monde était touché par ce que Dieu a envoyé. Et donc à aucun moment on pourra dire plus tard, ah oui, mais Isaac, c'était pas le fils d'Abraham, c'était le fils d'Abimélec. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire, que je pense encore plus extraordinaire ici, c'est que, vous voyez qu'en plus, en rendant stérile cette famille, Dieu montre qu'il est capable de rendre stérile une famille, mais que donc il va être capable de rendre fécond une autre. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que Dieu, montrant qu'il a été capable de rendre stérile la famille d'Abimélec, faire le pas en disant, il y a un miracle que Dieu va faire, qui va être de rendre féconde la famille Abraham, Sarah Abraham, ça, c'est un pas qu'on peut faire de façon tout à fait naturelle. Et tout le monde va le croire. Tout le monde va dire, ben oui, c'est normal, il a pu faire l'un. Et vous voyez comment Dieu défend son dessein, c'est-à-dire que, en même temps, il retourne à son avantage une situation dont l'issue aurait pu être catastrophique. Mais ça, c'est, Dieu fait ça. Et c'est ça qui est merveilleux quand Dieu agit. Dieu agit comme ça. Il agit de façon tellement splendide qu'après, tout est retourné et tout prend un autre sens. Et ça, quand Dieu agit, c'est toujours comme ça. Dieu agit, quand il agit, les choses qui peuvent apparaître comme catastrophiques sont retournées, deviennent magnifiques. Et la main de Dieu, la patte de Dieu s'est posée, et donc du coup, ça a une allure totalement différente. Quand Dieu agit, c'est toujours beau, mes amis. C'est toujours splendide quand Dieu agit. Il y a toujours sa main, on la voit. Et on sait la reconnaître. Vous voyez ? Je voudrais maintenant vous parler d'une autre question
qui est un petit peu plus délicate, mais je voudrais vous faire sentir une chose que je crois, et donc je vais vous suggérer une pensée en vous disant que je ne fais que vous la suggérer. Je voudrais vous parler de Sarah. Sarah, dans ce passage, n'apparaît pas, ou à peine, enfin, je veux dire, on dit d'elle, on parle d'elle, il y a le seul moment où elle dit, j'ai dit, qu'elle a dit, lui dit, Abimelech, elle m'a dit qu'elle était votre frère ou ton frère, elle n'apparaît pas. Maintenant, je voudrais que vous voyez le passage temporel, n'est-ce pas? Vous avez, en chapitre 18, la visite des anges, c'est là où Sarah arrive, elle n'a pas cru, n'est-ce pas? Elle n'a pas cru. Et l'ange lui dit, tu arrives parce que tu ne croyais pas, et elle a menti. Et maintenant elle se trouve chez Abimelech. Or, il est dit qu'il n'avait pas touché, mais il était, à mon avis, déterminé à le faire. Vous imaginez la situation de cette femme. Toutes les dames doivent se rendre compte de la situation de cette femme. Et Abimelech, c'était un roi. Donc, il allait la mettre, je sais pas, dans un harem ou je ne sais quoi. Enfin, bon, voilà. Vous imaginez la situation de cette femme. Mais vous imaginez aussi une autre chose, et c'est là où je vais vous suggérer quelque chose, mais bien entendu, je peux pas être absolument certain. Cette femme, en même temps, elle a menti. Donc, en même temps, elle a dit à cet Abimelech, je suis son frère, sa sœur, donc elle s'est mise dans la situation d'être prise pour femme par Abimelech. Et en même temps, ma conviction, c'est qu'elle était déjà dans la foi. Et qu'elle était déjà dans la foi en la promesse. Et je le crois, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Hébreux 11, il y a ce verset 11 qui est quand même extraordinaire concernant Sarah. C'est par la foi que Sarah, écoutez bien là, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. À quel moment est-ce que Sarah peut avoir cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse? C'est après la visite de celui qui a fait la promesse, nécessairement. Et après cette visite, Abraham s'en va et se retrouve à Guérar. Et moi, je pense, je vous assure que je pense que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elle a fait qu'elle a manifesté cette grande position d'héroïne de la foi, en ce que, en même temps qu'elle obéissait à son mari, elle croyait en la promesse. Regardez, juste après, vous avez l'exemple d'Abraham et d'Isaac. Lorsque Abraham est en train de sacrifier Isaac, en même temps il croit qu'il va le recouvrer comme à travers une résurrection. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est en train pratiquement de s'apprêter à le sacrifier, il croit à un avenir totalement différent. Et je crois, moi personnellement, que Sarah, à ce moment-là, a été dans la situation où elle a manifesté une foi qui lui a fait croire en la promesse en même temps qu'elle disait « Je suis sa sœur ». Donc elle était en train de faire une chose en croyant à quelque chose d'autre. Regardez la vie de Joseph, tout s'est déroulé dans la vie de Joseph alors que tout allait d'une certaine façon et la promesse qui le concernait était dans l'autre direction. Alors vous allez me dire, oui mais, alors donc, ça ce que je vous dis c'est une suggestion, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je crois que là elle a manifesté. Oui mais vous allez me dire, mais comment se fait-il que la Bible ne se fait pas écho là, de ça? Eh bien la réponse que je peux vous faire c'est que cette manifestation d'un héroïsme de foi s'est faite comme conséquence du mensonge
c'est que Dieu ne peut pas, d'une certaine façon, honorer autant qu'il est possible un acte de foi qui se fait dans un cadre mensonger. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'en est rien. Voilà, je vous fais une tentative de ce que je crois, hein, bien entendu, comment vous dire, voilà, c'est moi, je crois cela, je crois que ça s'est passé comme ça, mais maintenant, vous pouvez très bien me dire, non, je suis pas d'accord, etc., ça ne va pas me gêner beaucoup. Mais je vous explique, j'essaie d'aller jusqu'au bout de ce que je crois. Je pense que cette femme a manifesté l'héroïsme de la foi, et qu'il y a un moment où il fallait le manifester, c'était là. Maintenant, je finis sur Abimélec, et puis j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Abimélec, c'est un craignant Dieu, c'est un homme qui craint Dieu, hein, vous avez vu. Il craint Dieu, d'ailleurs il dit « je crains Dieu ». Il a conscience du péché, il dit « tu nous entraînes dans le péché ». Au regard des mœurs de l'époque, il peut dire qu'il a un cœur pur, et d'ailleurs, Dieu lui dit « oui ». Quand il dit « j'ai pris Sarah et j'avais le cœur pur », et Dieu lui dit « oui ». Dieu lui dit « oui ». C'est d'ailleurs très intéressant que Dieu lui ait dit « oui ». Ça prouve que Dieu regarde les hommes selon leur conscience, dans le bain de leur culture. Ça, c'était la culture de l'époque. On prenait les femmes comme ça quand un prince venait chez un autre, il prenait les femmes éventuellement pour faire des alliances ou pour tout simplement prendre. Et donc, Dieu regarde les hommes selon leur conscience. Et il les regarde les païens selon leur culture. Il les regarde comme ça, selon leur culture. Mais je vous rappelle qu'il regarde aussi ceux qui connaissent Dieu selon leur connaissance. N'est-ce pas? Rappelez-vous, aux eaux de Mériba, Moïse a frappé le rocher alors qu'il devait lui parler. Et l'homme qui connaissait Dieu et qui parlait Dieu avec Dieu face à face, qui connaissait Dieu, s'est comporté comme s'il ne connaissait pas. Et la rétribution pour lui est qu'il n'est pas rentré en terre promise. Donc Dieu regarde les païens selon leur connaissance, et selon le bain de leur culture, mais nous, qui sommes dans le bain de la culture du christianisme, Dieu nous demande de mettre notre salut en action et de vivre selon ce que nous savons du christianisme. Vous voyez comment je reviens à dire, ça nous touche nous aussi. Si Dieu regarde Abimélec qui agit selon la mode des païens, moi je dis, nous sommes dans une culture chrétienne qui nous est distillée par la parole de Dieu, nous devons marcher selon cette parole. Et Dieu nous jugera selon la façon dont nous avons marché, n'est-ce pas ? Selon la connaissance de l'évangile que nous avons et la façon dont nous avons marché en accord avec cette connaissance. Mais pour continuer sur Abimélec, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que vous regardez, à un moment donné, il plaide, il dit, mais est-ce que tu vas toucher un peuple juste? Et c'est exactement les mots que Abraham avait employés quand il avait plaidé pour Sodome. Il a dit, et s'il reste quelques justes? Et Abimélec, il est presque à la place d'Abraham. Regardez, à cause du mensonge d'Abraham, Abimélec est devenu, dans cette affaire-ci, le juste face au menteur. Il est devenu le juste. Ce qui l'autorise à reprendre Abraham vertement. Et lui-même a ce pouvoir même en juge, qui protège l'honneur de Sarah. Puisque regardez, à la fin, il dit, c'est un verset qui est difficile d'interprétation, je vous le dis tout de suite. À Sarah, il dit, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux, pour tous ceux qui sont avec toi, ainsi ton honneur sera sauf. Ça veut dire, 1000 pièces d'argent sont données ostensiblement à Abraham, ton frère, en dédommagement pour la faute commise par Abimélec, et Abimélec prend la charge de la faute sur lui. C'est lui qui la prend pour lui. Mais il lui dit, ceci sera ce sacrifice, comme l'achat pour un voile qui permettra qu'on ne voit pas dans tes yeux l'ombre portée par la faute commise. Bravo. l'ombre dans tes yeux, dans ton regard, de la faute commise par vous. Il dit, je prends moi le prix, mais le péché était quand même de votre côté. D'accord? C'est un verset qui offre beaucoup de difficultés d'interprétation. Mais vous voyez qu'à la fin, ce qui est très intéressant, c'est que Dieu, qui bien entendu transcende cette affaire, il va bien au-delà. Dieu ne regarde pas que l'affaire. Il sait très bien que le prophète de Dieu sait que le prophète de Dieu, c'est Abraham, et c'est Abraham qui devra à la fin bénir Abimélec et demander à Dieu la guérison pour ce qui leur est arrivé. Bien entendu, si vous voulez, dans le cadre d'une toute petite affaire, d'une affaire comme ça, temporellement, Abimélec est apparu comme le juste. Mais devant l'éternité, l'ami de Dieu, le prince de Dieu. J'aime beaucoup cette expression que les gens d'Hébron avaient dit, tu es un prince de Dieu. Ce prince de Dieu qui est Abraham, bien entendu, est un être considérable, et c'est lui qui va demander à Dieu la guérison. Vous voyez? Mais quand même, pendant un temps, Abraham a vu, il a dû recevoir les récriminations d'Abimélec qui étaient justifiées. Encore un mot, et puis je finis là. Un mot supplémentaire. Notez qu'après l'expérience malheureuse de Sodome, où il avait tellement plaidé, bien sûr il était resté quelques justes, et c'est Lot qui est sorti avec sa famille, sa femme et ses deux filles. Abraham n'a plus tellement de... Il croit plus tellement qu'il y ait tellement de gens qui craignent Dieu ici. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Abimélec, je ne croyais pas qu'il y ait des gens qui craignent Dieu par ici. Mais pour lui, c'était... Bon, il avait tellement vu, il avait vu Sodome, il avait vu ces gens méchants, et c'est dit... Et nous, on fait pareil. Hein. Entre nous, on fait pareil. Les préjugés, les a priori, on les a. On se dit, oh là là, c'est même pas la peine d'aller leur parler du Seigneur, là, ceux-là, c'est fini. Quoi. Je les connais, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait le tour. Attention à priori, parce que là, c'était à priori, il avait tort. Mais Dieu rappelle à Abraham qu'il est l'intercesseur. Et son rôle d'intercesseur est capital, parce que il a la marque de Christ en lui. Abraham a la marque, il est un type de Christ. C'est lui qui intercède pour Lot. C'est lui qui intercède pour Sodome, les païens. C'est lui qui intercède pour Abimélec, païen encore, mais craignant Dieu. C'est lui l'intercesseur, c'est lui qui porte l'intercession et qui vient devant Dieu pour plaider pour ces gens, comme Christ plaide pour nous. Voilà. Alors, avant de te donner ma conclusion, qui va être rapide, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un devoir de vacances. Et voilà le devoir. Je vais me poser une question, je vais vous donner un objet de réflexion par rapport au texte que nous avons lu. C'est que vous avez vu que ce qu'on vient de lire sur Abraham, ce qui est central dans cette affaire d'Abraham, c'est la descendance, la protection de la descendance, le péril mis sur la descendance. C'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que ce passage est si important, qu'on comprenne bien comment Dieu a protégé, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que juste avant, à la fin du chapitre 19, on a la description d'une autre descendance. C'est la descendance de Lot. Avant d'arriver au chapitre 20, vous avez les 10 ou 15 versets qui correspondent à la descendance de Lot. Vous avez Lot, dont 2 Pierre nous dit, Lot, cet homme juste. Vous avez Abraham, qui est le bien-aimé dans Ésaïe, au chapitre 41. Il y en a un dont Dieu protège la descendance, au verset 20 d'une façon extraordinaire, contre Abimélec, contre un dévoiement de la promesse. Et l'autre, Lot, dont la descendance se dissout dans l'inceste. Et comment est-ce que Dieu a permis l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus? C'est un devoir de vacances. Je ne vais pas vous le commenter là pour l'instant, mais je vous laisse réfléchir parce que je crois que c'est un sujet qui vaut la peine d'être réfléchi. Comment sait-il que vous ayez la concomitance d'une descendance sous une forme avec un homme Lot qui était considéré comme juste? Et Abraham, qui est, bien entendu, d'une autre catégorie que Lot, mais qui quand même fait partie, les deux font partie de la famille de Dieu sûrement, puisque dans 2 Pierre il était dit, cet homme juste, travailler son âme de juste, il est un juste. Comment se fait-il que l'un a une descendance comme ça et l'autre comme ça? Je vous laisse à réfléchir. Donc, conclusion, le mensonge d'Abraham a eu pour conséquence, je vous lis les conséquences, 1, de faire qu'un prince de Dieu, ami de Dieu, soit repris par un roi philistin qui lui devient le juste. Conséquence du mensonge. De faire que Dieu lui-même ait à intervenir pour sauver sa descendance qu'il met en péril. Dieu lui-même doit le faire. Vous avez pensé à ce que ça veut dire. C'est comme si vous étiez ami avec un roi ou un président, et bon, vous avez votre vie, et le président sa vie, et que le président soit obligé d'intervenir dans vos propres affaires. Vous auriez honte. On a pour conséquence d'entraîner Sarah dans le mensonge. Car Sarah est entraînée dans le mensonge par Abraham. De mettre la pureté de Sarah en péril et de faire peser un doute sur la paternité de la descendance à venir. De faire qu'un voile serve à masquer sa faute. Et de facto, et presque, alors ça c'est moi qui dis. Attention, c'est moi qui dis par rapport à ce que je dis là. L'héroïsme dont elle a fait preuve en mentant par obéissance. Tout en adhérant à la promesse. Et ça c'est moi qui dis cette petite partie. D'entraîner potentiellement Abimélèque au péché. C'est ça qu'Abimélèque dit. De faire connaître une plaie à un peuple qui n'en était pas responsable. Cette parole de Dieu adressée à Abraham, « Sois intègre », doit résonner à nos oreilles, mes amis. Car elle est aussi pour nous. Dieu cherche, cessons si nous y faisons les bricolages, les magouilles de toutes sortes, dont les conséquences sont toujours lamentables. Et comportons-nous selon ce que Dieu veut de nous. Sois intègre. Amen.